Une relation avec Dieu. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de héros sportifs et musicaux. C'était des personnes que j'admirais. J'achetais leur musique, je regardais leurs matchs, mais je ne savais pas grand-chose d'eux. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Aujourd'hui, grâce à Wikipédia et aux médias sociaux, nous pouvons en savoir beaucoup plus sur nos héros sportifs et musicaux. Nous pouvons en savoir plus sur leur vie privée. Nous pouvons savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner aujourd'hui. Nous pouvons tout savoir. Mais même si nous pouvons trouver toutes ces informations sur eux, je pense que nous comprenons tous que nous n'avons pas de relation avec eux. Je pense que nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas leurs amis. Il y a une différence entre connaître quelqu'un et savoir quelque chose sur quelqu'un. Nous l'admettons facilement lorsque nous pensons à des célébrités ou à des personnes célèbres. Mais qu'en est-il de Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou connaissez-vous seulement son existence? Avez-vous une relation avec lui ou êtes-vous simplement au courant de son existence? C'est ce à quoi je veux que nous réfléchissions ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter à Jean 15. Ces dernières semaines, nous nous sommes penchés sur le fait que Dieu nous a créés pour les relations. Nous avons commencé dans le jardin d'Éden. Nous avons vu comment Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour nous d'être seuls. Dans la deuxième partie de la Genèse, nous avons parlé de la relation la plus intime qui soit, celle entre un mari et une femme. Dans la troisième Genèse, le même est venu dans le monde et a tout endommagé. Il a brisé notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Il y a quelques semaines, nous avons étudié l'histoire de Joseph, et nous avons vu comment Dieu peut apporter la guérison et le pardon dans nos relations qui ont été endommagées par le péché. Mais ici, dans Jean 15, nous allons nous pencher sur la relation la plus importante de toute notre relation avec Dieu. Car je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il s'agit de la dernière déclaration « Je suis » de l'évangile de Jean. Avant cela, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et maintenant, il dit « Je suis la vraie vigne. » Une vigne est une plante à tige d'où viennent les raisins. La vigne grandit et développe des branches. Et c'est sur ces branches que poussent les raisins ou les fruits. Jésus est donc la vigne, et Dieu le Père est le vigneron ou le jardinier. C'est Dieu qui prend soin de la plante, qui veille à sa croissance. Cette image était importante à l'époque, car dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël était souvent représentée comme une vigne. Cela montrait leur lien avec Dieu, le vigneron. Mais à maintes reprises dans l'Ancien Testament, Israël a désobéi à Dieu. Souvent, ils ne portaient pas de fruits, mais il leur était facile de dire « Ce n'est pas grave, nous sommes toujours la vigne. Tout va bien. » Mais Jésus vient et non seulement il est une vigne, mais qu'il est la vraie vigne. Jésus est notre lien avec Dieu le Père. Jésus n'est pas un moyen d'accéder à Dieu. Jésus déclare qu'il est le moyen d'accéder à Dieu. Il n'est pas une vigne. Il est la vraie vigne. Personne ne vient au Père si ce n'est par lui. 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jésus est donc la vigne, Dieu est le vigneron et ses disciples sont les sarments. C'est ce que dit Jésus au verset 5. Au début du verset 2, il y a des branches qui ne portent pas de fruits et que Dieu enlève. Qui sont donc ces branches mortes? Certains pensent qu'il s'agit d'une référence à l'Israël de l'époque. D'autres pensent qu'il s'agit d'une référence aux incroyants. Certains pensent que parce que Jésus dit « tout sarment en moi », il s'agit d'une référence aux chrétiens infructueux qui ont perdu leur salut. Mais je rejette cette dernière option, car elle irait à l'encontre d'autres enseignements trouvés dans l'Évangile de Jean qui disent que « quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle ». Nous devons toujours faire preuve d'humilité et de prudence lorsque nous interprétons les Écritures, en particulier les paraboles ou les symboles. Parfois, les gens prennent un détail d'une parabole et lui donnent un sens. Ce serait comme si ma femme me disait qu'elle m'aimait plus que tout dans la galaxie. Mais au lieu de me concentrer sur l'amour qu'elle me porte, je lui dis « Tu veux dire que tu détestes la planète Jupiter ?» Dans cet exemple, je passe à côté de l'essentiel en me concentrant sur un détail. Quel est donc l'argument principal de Jésus au début du verset 2? Son idée principale est que si vous n'êtes pas relié à la vigne, il n'y a pas de vie. Si vous n'êtes pas relié à lui, il n'y aura pas de fruits spirituels. C'était vrai il y a 2000 ans lorsqu'il l'a dit en Israël, et c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Pour porter du fruit, il faut être relié à la vigne, au Christ. Il dit ensuite que chaque branche qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'elle soit encore plus fructueuse. L'élagage, dans le sens du jardinage, consiste à enlever de la plante ce qui pourrait bloquer sa croissance. Si vous coupez ces choses, la plante est libre de croître encore plus. De la même manière, sur le plan spirituel, Dieu vous émonde en supprimant les choses qui pourraient bloquer votre croissance spirituelle, afin que vous puissiez grandir davantage. L'élagage n'est pas toujours agréable, mais il fait partie du processus de croissance. Nous avons tous probablement fait l'expérience de l'élagage de Dieu dans notre vie. Vous suivez Jésus, de bonnes choses se produisent, mais ensuite, Dieu apporte un changement dans notre vie, où il enlève quelque chose de nous afin que nous puissions grandir encore plus. Et sur le moment, on peut avoir l'impression de revenir en arrière. Cela peut ressembler à une régression. Mais en réalité, si Dieu vous taille à ce moment-là, vous ne reculez pas du tout. En fait, vous êtes sur le point d'aller encore plus loin dans votre foi. Mais c'est difficile. Le temps de l'élagage n'est pas toujours agréable. Nous n'aimons pas toujours le changement. Mais il peut être nécessaire à notre croissance. J'ai déjà raconté l'histoire, mais il y a environ 25 ans, mes meilleurs amis et moi-même avons formé un groupe de louanges et d'adoration. Nous pouvions voyager et animer des cultes dans des églises et des camps. Nous allions à l'université du lundi au vendredi, puis nous montions dans la camionnette et nous voyagions pour animer des cultes dans différents endroits. C'était le meilleur. C'était tellement amusant. Et j'ai beaucoup grandi spirituellement pendant cette période et nous portions de bons fruits. Lorsque nous voyagions, nous parlions souvent de l'avenir. Nous rêvions des choses que Dieu pourrait faire avec nous ensemble. C'était toujours notre projet. Mais après environ 3 ans de voyage et d'animation de la louange, les choses ont commencé à changer. L'un de mes amis dans le groupe s'est marié et ne pouvait plus voyager autant. puis un autre de mes amis s'est marié. Puis notre batteur a passé 2 ans au Pérou en tant que missionnaire. En 2004, le groupe de louanges était terminé. Nous étions toujours de très bons amis, mais l'époque où nous voyagions et dirigions la louange était révolue. Et je me souviens de la confusion qui régnait à l'époque. Je me souviens avoir pensé que c'était notre avenir. Je pensais que Dieu allait utiliser notre groupe pour faire des choses extraordinaires, et je n'aimais pas ce changement. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Dieu allait nous utiliser pour faire des choses puissantes, mais pas ensemble. Dieu allait nous utiliser pour avoir un plus grand impact séparément qu'à 4. Tous mes amis ont ensuite exercé un ministère à plein temps dans différentes parties du monde. Oui, depuis 2000-2003, nous portions de bons fruits. De bonnes choses se produisaient. Un bon ministère se mettait en place. Mais Dieu nous a séparés. Il nous a envoyés dans des endroits différents. Il nous a émondés afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Comme je l'ai dit, les gens en général n'aiment pas le changement. Nous aimons les choses telles qu'elles sont, mais souvent pour grandir, Dieu apporte des changements dans nos vies. Dieu peut perturber nos vies afin que nous puissions porter encore plus de fruits pour lui. Êtes-vous dans une période d'élagage en ce moment? Y a-t-il un changement dans votre vie en ce moment qui n'est peut-être pas très agréable à vivre? Peut-être même qu'il est douloureux. Peut-être que, comme je l'ai vécu, Dieu est en train d'arrêter quelque chose de bon dans votre vie, quelque chose d'important pour vous en ce moment, et cela vous fait mal. Ferez-vous confiance au vigneron? Allez-vous tenir bon et croire qu'en effet Dieu fait concourir toutes choses au bien? Permettez-moi de vous dire que, quel que soit le potentiel que vous voyez en vous, Dieu en voit infiniment plus. Quelle que soit la quantité de fruits que vous portez actuellement, Dieu voit le potentiel pour beaucoup plus. L'élagage n'est pas toujours agréable, mais il est nécessaire à votre croissance. Au verset 3, Jésus dit à ses disciples que l'émondage a déjà commencé pour eux à travers la parole de Jésus. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec le Christ, il nous révèle des choses par sa parole, afin que nous puissions grandir et porter encore plus de fruits pour lui. 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure dans la vigne, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 4, Jésus dit qu'un sarment ne peut pas porter de fruits s'il est seul. Une branche qui n'est pas reliée à la vigne ne portera aucun fruit, c'est simplement une branche morte. Mais un sarment qui est relié à la vigne portera beaucoup de fruits. Le verset 5 dit qu'en fait nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Cela ne veut pas dire rien dans le sens de n'importe quoi. Certes, nous pouvons faire beaucoup de choses sans Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons rien faire qui ait une valeur éternelle sans Jésus-Christ, sans la vraie vigne. Alors comment restons-nous connectés à la vigne? Comment restons-nous connectés à Jésus? Jésus dit que c'est simple. Demeurez en moi et moi en vous. Le verset 5 promet que quiconque demeure en Jésus et lui en lui portera beaucoup de fruits. Dans les versets 1 à 11, ce mot « demeurer » ou des mots apparentés est utilisé 11 fois. Votre traduction pourrait utiliser les mots « demeurer » ou continuer en Christ. Ce mot nous permet de comprendre l'importance d'une relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu commence au moment du salut. Avant de connaître le Christ, notre péché nous a séparés d'un Dieu saint et parfait. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour. Et quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et nous sommes unis au Christ. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a tant de choses qui se passent au moment du salut. Il y a tant de choses qui se produisent lorsque nous nous repentons de notre péché et que nous plaçons notre confiance en Christ. Mais le salut n'est pas la fin de l'histoire. Le salut est le début de l'histoire. Le salut est le début de notre voyage avec le Christ. Et c'est un voyage. Il nous conduit et nous le suivons. Dans Jean 10, Jésus dit qu'il est le bon berger et que nous sommes ses brebis. Il dit qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Ses brebis entendent sa voix et le suivent. Jésus décrit une relation intime, le connaître profondément et pas seulement le connaître. Nous apprenons à le connaître davantage par sa parole, par la prière et en marchant avec lui dans les hauts et les bas de cette vie. Lorsque nous passons du temps avec lui, nous commençons à grandir et à changer. Les choses qui comptent pour Dieu commencent à compter pour nous. Nos cœurs s'alignent davantage sur le sien. Parfois, nous pouvons réduire la vie abondante que Jésus offre et faire en sorte que tout se résume à l'obtention d'un billet pour le paradis. Tu as ton billet? Tu as ton billet? Il faut que tu aies ton billet. D'accord? Comment puis-je obtenir mon billet? En croyant en Jésus? D'accord. Je crois, donnez-moi juste mon billet pour le paradis. Oui, en tant que croyant, nous attendons avec impatience l'éternité au ciel avec le Christ. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi de marcher avec Dieu aujourd'hui, de demeurer en lui aujourd'hui, de lui faire confiance aujourd'hui alors qu'il vous conduit aujourd'hui. Imaginez que vous me demandiez comment se passe mon mariage et que je vous montre une copie de mon acte de mariage. Oui, c'est un document important. Oui, il prouve que je suis mariée, mais je ne me suis pas mariée uniquement pour obtenir un document. Je me suis mariée parce que je voulais être avec ma femme. Je me suis mariée pour pouvoir passer du temps avec elle, parce que je l'apprécie, pour pouvoir la connaître davantage. De la même manière, croire en Jésus ne consiste pas seulement à obtenir un billet pour le ciel, mais aussi à le suivre lorsqu'il nous conduit dans cette vie. Il s'agit d'avoir une relation croissante et vibrante avec lui. Cela dit, au verset 6, Jésus nous conseille de penser à l'éternité. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté comme un sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et on les brûle. Nous avons ici plus d'informations sur les branches mortes qu'au verset 2. Ici, Jésus semble parler des personnes qui ne croient pas en lui. Dans la Bible, le feu est souvent un symbole du jugement divin. La Bible parle de la glorieuse réalité du paradis, mais aussi de la triste réalité de l'enfer, un lieu de châtiment éternel pour ceux qui ont rejeté le Christ. Beaucoup de gens aiment l'idée biblique du paradis, mais n'aiment pas l'idée biblique de l'enfer. Mais la Bible qui nous enseigne le paradis est la même que celle qui nous enseigne l'enfer. Jésus a parlé de la réalité de l'enfer à de nombreuses reprises. Si vous êtes ici ce matin et que vous ne croyez pas en Jésus, Je tiens à vous avertir que les enjeux sont élevés. Ce n'est pas un jeu. L'enfer est aussi réel que le paradis. Quel genre de sarment es-tu? Êtes-vous un sarment vivant, relié à Jésus, le vrai cep? Ou êtes-vous comme le sarment mort, attendant le jugement de Dieu? Je prie pour que nous soyons tous ici des branches vivantes, demeurant en Jésus-Christ. C'est si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. 8. Mon Père se glorifie de ce que vous portez au cou de fruits et que vous devenez mes disciples. Une partie de la vie en Christ consiste à prier, à parler avec Dieu. Lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière, nous le remercions, nous lui présentons nos demandes, nous confessons nos péchés, nous le louons pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous passons du temps avec lui dans la prière. Quelqu'un pourrait sortir la fin du verset 7 de son contexte et penser que Dieu est un génie magique, prêt à exaucer tous nos souhaits. C'est comme prier « Dieu, donne-moi une Lamborghini » et puis pouf, une Lamborghini apparaît devant vos yeux. Mais ce n'est pas l'image que nous voyons. Le début du 7e verset contient un qualificatif. Il dit « Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » C'est un qualificatif important. Car il montre que plus nous passons de temps avec le Christ, plus nous lisons sa parole, et plus nous obéissons à sa parole, plus les désirs de Dieu deviennent nos désirs. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nos cœurs changent et commencent à s'aligner sur sa volonté. Le fait de demeurer en Christ changera votre façon de prier. Ainsi, au lieu de prier « Seigneur, donne-moi une Lamborghini », nous prions « Seigneur, aide-moi à te faire confiance aujourd'hui au travail. Aide-moi à marcher dans l'intégrité aujourd'hui à l'école. » Aide-moi à t'honorer dans tout ce que je fais aujourd'hui. Comme le dit le verset 8, cela rend gloire à Dieu le Père. Cela porte du fruit dans nos vies. C'est la preuve que nous sommes ses disciples. Comme nous le voyons dans le livre de Jacques, les bonnes œuvres ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais elles en sont les résultats nécessaires. Porter du fruit est le résultat d'être un disciple de Jésus-Christ. Le fruit ne vient pas de nous-mêmes, il vient de notre lien avec la vigne. Quel est donc ce fruit dont Jésus ne cesse de parler? 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Lorsque nous parlons de porter du fruit, nous parlons du fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Deux de ces fruits sont énumérés dans ces versets, l'amour et la joie. Ce sont les fruits de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Cela signifie que plus nous demeurons en Jésus-Christ, plus ces fruits grandiront et se manifesteront. Souvent, lorsque nous pensons à porter du fruit, en particulier dans le domaine spirituel, nous avons tendance à penser aux résultats du ministère. J'ai conduit cette personne à Jésus-Christ, ou j'ai baptisé cette personne, ou j'ai fondé cette église. Mais l'accent mis dans les Écritures sur le fait de porter du fruit ne concerne pas tant l'efficacité du ministère que le caractère. Il s'agit de savoir qui vous êtes lorsque personne d'autre n'est là. Le fait de demeurer en Christ produit ce fruit spirituel en nous. Et comme nous le savons, on ne peut pas mettre un fruit dans un micro-ondes. Il faut du temps pour qu'un fruit pousse. Comment y parvenir? Jésus dit au verset 10 qu'en obéissant à ses commandements, nous pouvons demeurer dans son amour. Comment faisons-nous cela? Notre attitude doit-elle être « je ne veux pas faire cela, mais Dieu dit que je dois le faire ». Appelons cela l'obéissance sans joie. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La vie chrétienne ne consiste pas à marcher sans joie avec le Christ. Il s'agit plutôt d'une obéissance joyeuse. Il s'agit de comprendre que Dieu connaît la meilleure façon de vivre et de lui faire confiance en vivant pour lui. Comme le dit le verset 11, « afin que votre joie soit complète ». Aimer Dieu, c'est obéir avec joie à ses commandements. Quels sont donc ses commandements? 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsque les disciples ont entendu cela, ils n'ont pas encore compris toute la signification de ce que Jésus disait. Ils le sauront bientôt, lorsque Jésus ira mourir sur la croix pour qu'il puisse vivre. Un amour si étonnant, un amour si divin. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés par la foi en lui. Jésus dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres de cette manière. » Un amour sacrificiel qui pense aux autres avant de penser à soi. Le monde d'aujourd'hui vous dira, « Concentrez-vous sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce qui vous rend heureux. Pensez d'abord à vous. » Jésus vient nous dire que le vrai fruit et la vraie croissance, c'est de servir et d'aimer les autres. Lorsque vous vous aimez les uns les autres, vous aimez aussi Dieu en obéissant à son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. C'est son commandement, et ses commandements ne sont pas pénibles. 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Dans la relation entre le serviteur et le maître, il y a toujours eu une forme de séparation dans la hiérarchie. Il y a toujours eu une dynamique de pouvoir connue et ressentie. Le serviteur ne sait que ce qu'il a besoin de savoir. Le maître ne doit pas tout lui dire. Mais Jésus dit à ses disciples, « Nous n'avons pas besoin de ces catégories parce que je vous dis tout. » Il dit plutôt, « Vous êtes mes amis. » Parfois, nous sommes plus à l'aise avec d'autres métaphores pour décrire notre relation avec Dieu. Il est notre roi, il est notre père. Nous pouvons être plus à l'aise avec cela parce qu'il y a des niveaux clairs. Mais Jésus arrive et nous dit que nous sommes ses amis. Pensez-y. Nous sommes les amis du Créateur de l'univers. Non seulement Dieu vous aime, mais il vous apprécie. Il aime passer du temps avec vous. Il vous appelle ami. Savez-vous cela à propos de notre Dieu? Chaque dimanche, lorsque je viens prêcher, je porte généralement un costume. Parfois, rarement, je porte une cravate, mais je n'aime pas porter de cravate parce que mon cou est trop grand. Or, il n'y a pas de verset biblique qui dise que je dois porter un costume lorsque l'Église se réunit. Alors, quand je mets ce costume, pour qui pensez-vous que je le porte? Je le porte pour vous et je le porte pour moi. Je le porte pour m'intégrer à la culture et je le porte pour moi, parce que je me sentirais bizarre de me tenir ici avec un t-shirt. Mais savez-vous pour qui je ne porte pas ce costume? Je ne porte pas ce costume pour Dieu. Je n'essaie pas de l'impressionner avec mes vêtements. Je n'ai pas besoin d'impressionner Dieu avec mes vêtements, je ne peux pas impressionner Dieu avec mes vêtements. Vous savez pourquoi? Il est mon ami. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde le cœur. Il s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il se soucie de savoir si je suis gentil ou non aujourd'hui. Il se préoccupe de savoir si je suis patient ou non aujourd'hui. C'est mon ami. Il est mon ami si je porte un costume. Et il est mon ami si je porte un pyjama. Nous avons une relation personnelle et intime. Je sais que vous savez que Dieu est votre Père, mais savez-vous qu'il est votre ami? Comprends-tu que non seulement Dieu t'aime, mais qu'il t'apprécie, qu'il se réjouit pour toi? Dernier verset. 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17. Je vous commande ces choses pour que vous vous aimiez les uns les autres. Jésus dit qu'il nous a choisis pour que nous puissions le connaître et porter du fruit. Et il nous rappelle à nouveau de porter du fruit, de prier en son nom, et de nous aimer les uns les autres. Le thème de cette série de sermons est que Dieu nous a créés pour les relations, et la relation la plus importante est votre relation avec lui. Il est la vigne et vous êtes les branches. Comment se présente votre branche ces jours-ci? Passez-vous du temps avec Jésus dans la prière? Passez-vous du temps dans sa parole? Obéis-tu joyeusement à ses commandements? Portez-vous de bons fruits? Croissez-vous dans votre amour, votre joie, votre paix, votre patience, votre gentillesse, votre bonté, votre fidélité, votre douceur et votre maîtrise de soi? Êtes-vous dans une période d'élagage? Dieu est-il en train de retirer certaines choses de votre vie afin que vous puissiez porter encore plus de fruits? Dieu est-il en train d'apporter un changement dans votre vie afin que vous puissiez porter plus de fruits? L'élagage peut sembler douloureux sur le moment, mais il en vaut toujours la peine. Demeurez en Christ. Continuez à marcher avec lui. Il est la vigne et il est fidèle pour continuer à produire du bon fruit dans votre vie. Prière d'invitation.